Donc, aux loutres nombreuses qui nous écoutent et surtout vous, amis auditeurs, je vous souhaite une belle après-midi. Un bel après-midi avec CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Avec aujourd'hui Olivier Daligo et Céline Bonhomme à la technique et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza. C'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Bon, avec une actualité que vous connaissez, donc une humeur pleine de questions quand on voit les banquiers ripoux de Wall Street et autres prédateurs de la finance mondiale, donc mordre la main qui les a secourus et parier sur la faillite des États désunis d'Europe, le tout avec la bénédiction des agences de notation, les mêmes d'ailleurs qui nous affirmaient il y a 2 ans que Lehman Brothers, AIG et Tutti Quanti, c'était du béton. Alors ça nous a fait penser à un petit conte africain. Vous savez, c'est l'histoire d'un scorpion qui veut traverser une rivière et qui demande à un crocodile de le prendre sur le dos. « Mais certainement pas, répond le crocodile. Je te connais, tu vas en profiter pour me piquer. »« Mais pourquoi te piquerais-je, dit le scorpion. Si je te pique et que tu me noies, je mourrai aussi. » Le crocodile accepte. Mais au milieu de la rivière, pic, le scorpion le pique. « Mais pourquoi vas-tu piquer ?» demande le crocodile. « Mais parce que je suis un scorpion. » Alors aucune similitude, vous en doutez bien, entre notre histoire de scorpion malgré lui et le troisième groupe pétrolier mondial BP qui nous annonçait mardi une croissance de 135% de son bénéfice trimestriel et dont les représentants soutenaient mordicus il y a 6 mois qu'il n'était nullement besoin de durcir la réglementation des forages pétroliers en eau profonde, étant donné que les méthodes de la maison étaient tout à fait sûres. Une plateforme qui explose, un puits de pétrole qui fuit et quelques dizaines de milliers de barils plus tard, nous avons donc une marée noire de la taille de 2 ou 3 régions françaises à la dérive dans le golfe du Mexique qui va nous bitumer les côtes de Louisiane sur des centaines de kilomètres. La Louisiane. Rappelez-vous, nous sommes en 1803. Napoléon, pressé de payer comptant sa prochaine guerre contre l'Angleterre, se lance dans la plus vaste opération immobilière de l'histoire et vend au président Jefferson 2 millions de kilomètres carrés de territoire américain, 4 fois la France métropolitaine. La conquête de l'Ouest, donc, pour une poignée de dollars. Alors, la Louisiane aujourd'hui, c'est pas seulement la Nouvelle-Orléans, les clubs de jazz, c'est aussi le delta du Mississippi, ces marécages côtiers, ces bayous grouillants de vie, ces mangroves, huîtres, crabes, crevettes, tortues, dauphins, alligators. J'en passe sans oublier, bien sûr, les hommes, pêcheurs, touristes, à qui on servira dans quelques heures le poisson-chat flambé dans son coulis de brut léger. Bref, toute une population à la merci de la bande, souvenez-vous des creuses, bébé creuses, oui, de la pétillante et écologiste Sarah Palin, sénateur à l'époque de l'Alaska, avec la liberté de forage et d'exploitation partout, partout, pour les toxicomanes du pétrole. Donc aujourd'hui, une population à la merci des objectifs financiers et de leurs merveilleuses agences de notation. Alors, pourquoi m'as-tu mazouté ? Demande le pélican brun, placide emblème de l'État de Louisiane. Mais parce que je ne suis pas un scorpion. Au menu de cette émission, 3 volets, une histoire de plantes et donc une petite mise à niveau pour nous sur la reproduction des plantes. Ce sera avec notre botaniste attitré, donc Jean-Marie Pelt. Et puis, reportage naturaliste, je vous l'ai dit, nous sommes dans le Limousin, dans le beau département de la Corrèze.
Attention, on va pas faire trop de bruit. Là, Denis, vous allez pouvoir la voir passer devant le gros bloc, là. Ouais, c'est la femelle. Ah, vous allez pouvoir la passer sur, voilà, sur la gauche.
Quelle merveille.
Elle arrive. Là, les loutres là, qui passent, là, en ce moment, sont entre 10 et 12 kilos là, pour 1 mètre, 1,20 m.
Ah oui, d'accord.
Elles sont assez, assez massives. Hein. On voit que c'est des animaux là, qui trouvent suffisamment à manger. Et tout. Hop, elle redescend par la droite. Son habitude, c'est de revenir. Ah ben voilà le jeune.
Un pisciculteur, Stéphane Raymond, qui est amoureux des loutres, qui les connaît, eh bien ça c'est pas banal, donc on va suivre son histoire et découvrir cet animal, je le disais, dont on parle relativement peu quand même dans l'actualité. Et puis toujours nature cette fois-ci, 3e volet, sous l'angle de la recherche et du développement, avec ce qu'on appelle le biomimétisme. Alors le nom est tout à fait moche, hein, c'est comme biodiversité, c'est très laid, mais c'est pas grave. S'inspirer de la nature et reproduire artificiellement ses mécanismes, l'homme étant un formidable copieur, eh bien que peut-il copier de la nature? Nous verrons cela dans quelques instants, enfin dans quelques instants. Tout à l'heure avec Yves Siama. Allez, c'est parti avec Muriel Pérez qui nous a choisi ce premier disque. Bel après-midi.
Choses là, j'ai pas la salle.
Ah, on va le dire avec des plans, donc avec Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors une petite question que l'on se pose, qui arrive aussi assez souvent, est-ce que toutes les plantes se reproduisent de la même façon ?
Ah, alors, toutes les plantes ne se reproduisent pas tout à fait de la même façon. Il y a, pour toutes les plantes, comme pour tous les animaux d'ailleurs, supérieurs, il y a un principe de base. C'est qu'à un moment donné, dans la vie de la plante ou dans la vie de l'animal, une cellule sexuelle mâle, qu'on appelle chez l'animal spermatozoïde et chez la plante tantôt entérozoïde, tantôt aussi spermatozoïde, rencontre une cellule femelle, qu'on appelle chez la plante oosphère et chez l'animal ovocyte. Les deux fusionnent et ça donne un œuf. Alors vous allez me demander, comment se fait-il que les noms ne sont pas les mêmes en zoologie qu'en botanique ? C'est parce que ce sont des domaines séparés. Chacune est dans son précaré. Chacune a inventé ses noms. Et on n'a pas encore réussi, malgré l'écologie qui étudie les interrelations entre tout ce petit monde, à trouver un vocabulaire qui soit commun au monde végétal et au monde animal, ce qui est quand même assez extraordinaire.
Ensuite, comment ça se passe ? Quel est le mécanisme ?
Alors, à partir de ce mécanisme central qui aboutit à un œuf, c'est-à-dire une cellule qui va donner, en évoluant, un nouvel être, il y a des modalités extrêmement différentes selon les types de plantes. Ça ne marche pas pareil, par exemple, chez les algues, chez les mousses, chez les fougères et chez les plantes à fleurs. Alors, chez les algues, c'est extraordinairement compliqué. Les algues ont une imagination absolument vertigineuse et se livrent à des exercices de sexualité qui sont plus forts que du libertinage et qui pourraient faire des buzz sur Internet. Oui, j'ai de la culture. Chez les mousses sont un peu sottes. Elles n'ont pas beaucoup évolué. Elles ont pratiquement toujours la même allure qu'elles avaient il y a 200 ou 300 millions d'années. Alors elles ont inventé un petit système à elles, qui est le système mousse. Je me garde bien de vous le raconter parce que ça serait long et compliqué. Mais en tout cas, elles sont toutes pareilles. Chez les fougères, elles ne sont pas tout à fait toutes pareilles parce qu'on voit une évolution. Et cette évolution qui se décide est très importante parce qu'on sent la nature obnubilée par le souci de bien protéger la cellule femelle, l'oosphère de la plante, qu'on appellerait l'ovocyte ou l'ovule dans le monde animal. Alors à partir de là, on voit une sorte, oui, le mot obsession est tout à fait convenable, qui conduit à une protection de la cellule femelle et de l'œuf qu'elle donne quand elle est fécondée. Et cet œuf va être protégé par des tuniques successives. Eh bien, écoutez, au cours de l'évolution, il y a 5 tuniques qui se sont ajoutées les unes derrière les autres, un peu comme des poupées russes, comme les poupées gigognes. Et un de mes collègues, très brillant botaniste, le professeur Mongelot, s'est dit, puisque l'évolution va vers une protection toujours plus grande de cette cellule femelle, il est possible que, puisqu'il y a actuellement 5 tuniques, il y ait en train de se former, de par le mouvement de l'évolution, des plantes qui auraient 6 tuniques autour de l'oosphère. Il l'a trouvé. Et on a trouvé des plantes du futur qui sont les ancêtres de ce que sont les plantes d'ici peut-être 50 millions d'années. Alors, espérons que cette hypothèse se confirmera, mais nous ne serons pas là pour l'avoir confirmée dans les nouvelles plantes du futur.
Donc, non, mais une fois de plus, cette évolution continue. Enfin, on le sait.
Cette évolution continue, mais cette évolution va lentement. Ça va moins vite que l'évolution des technologies de la communication.
Et du changement de votre portable.
Ça évolue moins vite que les portables. Ça évolue sur des centaines de millions d'années.
Cher Jean-Marie, de quoi se nourrissent les plantes ?
Non, elles ne se nourrissent pas. Elles synthétisent, ce n'est pas la même chose. Elles synthétisent de la nourriture. Elles fabriquent les plantes de la nourriture. Et elles le fabriquent en faisant la photosynthèse, comme on l'a déjà expliqué, en prenant le gaz carbonique de l'air, l'eau du sol, en les combinant tous les deux, et en faisant des sucres. Et quand cette opération se fait, il y a de l'oxygène qui est dégagé dans l'atmosphère. Donc la plante prend à l'atmosphère du gaz carbonique et rend à l'atmosphère de l'oxygène. Mais les plantes, elles respirent aussi. Alors elles prennent dans l'atmosphère de l'oxygène et elles rejettent du gaz carbonique. Donc on pourrait dire elles ne savent pas ce qu'elles veulent, puisqu'elles font une chose et son contraire. Mais la photosynthèse, elles le font à la lumière, pendant la journée. Et la respiration, c'est tout le temps, 24 heures sur 24. Mais la respiration dégage moins de gaz carbonique qu'il en est absorbé par la photosynthèse. Si bien que la plante grossit, alors que par respiration, elle maigrit, puisqu'elle elle brûle ses tissus, la plante grossit, et c'est la raison pour laquelle on dit que les grandes forêts fixent du gaz carbonique par la croissance des plantes. Plus la plante est grosse, plus elle a beaucoup de feuilles et beaucoup de rameaux, plus elle fixe du gaz carbonique. Ce gaz carbonique, elle le rendra quand elle mourra, mais si par exemple on fait avec le bois, je ne sais pas moi, par exemple, la charpente d'une cathédrale gothique du XIIIe siècle, et que la charpente est toujours là aujourd'hui, le gaz carbonique a été fixé pendant 7 siècles.
Alors, notre plante va puiser dans la terre de l'eau, mais aussi des sels minéraux par la racine.
Elle aspire de l'eau minérale, voilà. Puisque les sels minéraux sont dissous dans l'eau. Et puis, ces sels minéraux, certains sont très utiles pour la synthèse de toutes sortes de molécules. Par exemple, pour synthétiser la très emblématique molécule d'ADN, il faut du phosphore, il faut des phosphates. Donc la plante va chercher dans le sol des phosphates. Mais elle ne sait pas bien aller chercher les phosphates, parce que les racines ne sont pas très douées pour trouver les phosphates. Alors elle se met en ménage avec des petits filaments de champignons qui prolongent les racines et qui, eux, vont chercher les phosphates. Mais ces petits filaments de champignons sont blancs, ils sont dans l'obscurité. Comme ce sont des champignons, ils n'ont pas de chlorophylle, ils ne font pas la photosynthèse, ils ne savent pas fabriquer de la matière vivante. Alors ils crèveraient si la plante, par ses racines, ne leur envoyait pas des sucres. Donc on arrive au mécanisme très symbiotique qui est le suivant. Le petit champignon va chercher des sels minéraux et les phosphates en particulier et les file à la plante en la nourrissant d'éléments minéraux. Et la plante envoie par les vaisseaux et par les racines dans les filaments du champignon de la matière organique pour nourrir le champignon. C'est une symbiose très, très belle.
Puis il y a aussi les plantes carnivores, donc elles font de la photosynthèse, mais qu'est-ce qu'elles ont en plus ?
En plus, elles digèrent les insectes, il y en a à peu près 500 espèces connues. Elles digèrent les insectes parce qu'elles ont des enzymes qui sont tout à fait analogues à nos enzymes digestives. Alors, lorsqu'un insecte se fait piéger dans une plante carnivore, il s'empêtre dans une sorte de glu. Cette glu contient les enzymes digestives, et la plante, très méchamment, le tient prisonnier dans la glu, et le digère vivant. Et alors cet insecte, qui a, comme tous les insectes, son squelette extérieur, nous avons le squelette dans le dedans, les insectes ont le squelette dans le dehors, et ils ont le reste dans le dedans. Alors le dedans se vide, et alors on voit le cadavre d'un insecte qui est léger comme une plume, vous avez déjà vu des cadavres d'insectes, et si vous soufflez sur le cadavre d'insecte, le cadavre s'envole, mais l'insecte ne vole pas. C'est dire qu'il est devenu tout à fait léger, parce que toute sa vie biologique, toute sa matière vivante, a été complètement digérée par la plante. Et la plante, ça l'arrange bien, parce que les plantes carnivores sont des plantes qui poussent généralement, pas toujours,
dans
mais
les
souvent,
tourbières, souvent.
Dans les tourbières, où il y a beaucoup d'acidité, où il n'y a pas beaucoup d'azote.
Et donc elle récupère l'azote dans l'insecte.
Elle récupère l'azote dans l'insecte. Donc, en quelque sorte, leur menu n'est pas seulement la photosynthèse, mais aussi l'azote de l'insecte. Elles sont donc mieux nourries que les plantes normales.
Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis. Au revoir à tous.
CO2 Mon Amour, le magazine de Denis Chessou pour prendre conscience que nous n'avons qu'une seule terre. Julien Clerc.
And I've been working all night long. Put my daughter on my knee. And she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, Daddy, you're a fool.
Xavier Pestugia, c'est là qu'on ouvre les briquets, oui c'est normal. Alors travailler en ce 1er mai, se reposer, défiler, écouter la radio et puis aussi danser un slow merveilleux sur les Rolling Stones que vous avez reconnu, Fool to Cry, voilà. Et aussi regarder passer les loutres dans votre transistor.
On a très exactement 7 bassins, comme vous voyez, ce qu'on appelle type rassué, c'est-à-dire rectangulaire avec un flux d'eau qui traverse en permanence nos bassins. Ouais. Tous ces bassins sont alimentés par un canal qui est l'ancien bief du moulin de Bartou. Nous, on produit donc plusieurs espèces de truites, la truite arc-en-ciel, l'omble de fontaine et la truite fario. Ouais.
On va parler des loutres et aussi de votre histoire. Parce que pisciculteur et loutre, a priori, ça ne fait pas exactement bon ménage. Ça joue à cache-cache ou ça.
Mais en fait, moi, je me suis installé ici en 1998. Ouais. Et très vite, j'ai été confronté à des pertes de poissons très importantes, allant jusqu'à 50 000 truites manquantes par an. Ben, on s'est très vite rendu compte d'où provenait le problème, c'était donc les loutres. Et donc on a travaillé main dans la main avec des associations environnementales pour monter autour de la pisciculture un enclos expérimental. Les loutres ne peuvent plus rentrer. Par contre, elles sont toujours aux abords de la pisciculture. Et moi, j'ai fini par me passionner pour cet animal doté d'un instinct d'adaptation incroyable.
J'adore ce coin du plateau des Mille Vaches dans le Limousin. Vous connaissez Tarnac ? Bah si, si, bien sûr, c'est là que l'actualité hautement terroriste a amené il y a quelques mois plein de caméras. Et moi, à quelques kilomètres de là, vers Bugeat, en Haute-Corrèze, dans la petite Vézère, qui est un régal de rivière à près de 900 mètres d'altitude, eh bah, les journalistes et le GIGN, ils m'ont même pas vu, absolument. Bah, je leur ai dit, je peux être coupable, hein. Moi je terrorise le poisson. Eh oui, c'est mon boulot de loutre. Alors au début du XXe siècle, moi je fréquentais une grande partie de la France, hein, on me voyait un peu partout. Et puis comme je me promène en manteau de fourrure toute l'année, de la très belle fourrure, vous savez, très dense, à peu près 45 000 poils au centimètre carré, on m'a piégé. Hein. Et vous ajoutez à cela la réduction de mon territoire, le calibrage des rivières, l'assèchement des zones humides, les PCB, mes zones de reproduction bétonnées, la pollution, n'en jetez plus. Je suis heureusement aujourd'hui protégé. Les associations naturalistes, la DIRENE m'ont bien soutenu dans ma lutte. Et dans notre syndicat, nous devons être en France entre 2000 à 5000 loutres à jour de cotisation. Bon, là, moi, je vous parle du Limousin où je suis, mais vous pouvez me trouver aussi dans l'ouest de la France, en Bretagne, dans le Marais Poitevin, en Gironde, le Val d'Allier. Et puis je suis aussi devenu donc quasi copine là dans ce Limousin en Corrèze avec Stéphane Raymond, un pisciculteur, ami et amoureux des loutres. Alors l'affaire n'est pas banale, hein. Stéphane Raymond, là dans son moulin de Bartou près de Bugeat, a compris que moi la loutre je gagnerais plus souvent la partie que lui parce que je suis affûté, à l'affût de la moindre faille. Je peux sauter, monter et même grimper aux arbres. Aussi notre homme a-t-il appris à me connaître car on ne protège bien que ce que l'on connaît. Son lieu est donc devenu un centre d'observation de la loutre et on a joué au petit prince et au renard, mais lui c'est pas un petit prince, c'est un pisciculteur, moi je suis pas un renard, je suis une loutre. Lorsque l'on parle, on va dire, très, entre guillemets, mais d'intelligence, on est vraiment là. C'est-à-dire que la pêche miraculeuse, la loutre l'avait très bien compris. C'est-à-dire que soit elle passait par les entrées d'eau, soit par les sorties d'eau, c'est ça
ou... Oh oui, mais elle passait absolument partout où elle pouvait passer. Ah ouais, bon. Et on a essayé de l'empêcher de rentrer par des dizaines et des dizaines de moyens. Et puis à chaque fois, au bout de deux jours, elle contournait le problème et elle trouvait une autre solution.
Donc vous vous êtes dit, on va faire ami-ami. Puisque ça ne marche pas de toute façon en confrontation, autant aller dans le même sens. Malgré tout, elle continue à bouffer, quand même, à avoir botté un peu de truite ou quoi?
Alors, bah oui, c'est 100% efficace, à condition que moi, je n'oublie pas de fermer des accès, parce qu'elles sont à l'affût de la moindre faille.
J'ai même appris aussi qu'à un moment, vous aviez utilisé des chiens. Hein, alors, on connaît les chiens patous, ça, c'est les chiens de berger pour lutter contre les loups et les ours. Mais vous, c'était quoi?
Alors, bah, effectivement, j'avais deux chiens à l'époque qui étaient là pour les effaroucher. J'avais à l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs, un gros berger belge Groenendal et également un fox terrier. Ça s'est terminé tout simplement. Le berger belge s'est fait mordre à l'épaule, donc ça a fini chez le vétérinaire. Et ensuite, le fox terrier, lui, a subi une loutre et s'est noyé. Ouais. Donc il fallait réellement qu'on opte pour ce que vous avez devant vous actuellement. Je peux vous décrire.
Ah bah on y va, parce que voilà. On a donc la petite vésère d'un côté, donc un grillage très fin.
La loutre était capable de creuser. Effectivement, avant, elle creusait pour passer sous l'ancienne clôture. Donc on a mis une tranchée qu'on a remplie de 50 cm de béton. Oui. Donc là, elles ne peuvent plus passer par là. Il y avait une ancienne clôture qu'elle nous déchirait avec les pattes, avec les dents, elle nous la démaillait. Donc il a fallu simplement remplacer ça par une clôture. Donc là, elle ne peut pas y passer les pattes.
Ouais. Je précise que ce n'est pas du tout un centre de détention.
Non, puis ça se cache assez. Voilà, ça ne se voit pas trop dans l'environnement.
Lorsque l'on parle des loutres, on se dit, bon, elles mangent du poisson, d'accord, mais pas que. Elle a quand même un régime assez varié.
Ah, tout à fait. On estime que le régime alimentaire de la loutre est basé à 60% sur le poisson, mais qu'elle va consommer également aussi bien des amphibiens que des micro-mammifères, hein, tout ce qui est rongeurs, des oiseaux, oisillons, les crustacés. Alors, elle a pour argument, cette gentille loutre, de nous débarrasser un peu de ces écrevisses américaines qui sont la peste des rivières. Et puis, vu que c'est assez opportuniste, elle peut tout à fait croquer quelques gros insectes, des grosses libellules ou autres. Enfin, voilà, elle se débrouille comme elle peut.
Bon, alors, comme on est quand même, franchement, à la tombée du jour, vous avez, vous, installé un affût, parce qu'on se doute bien que c'est pas exactement un animal qui est très, très diurne. Hein, on la verra pas en journée. Mais là, d'ici peut-être une petite heure, ça va être possible. On referme bien la porte. On va retraverser la Vézère et on va aller sur la gauche.
Moi, c'est un animal qui est habitué à mon odeur, que j'arrive à l'approcher sans qu'elle soit trop effrayée et l'observer sans être caché.
Parce qu'en plus, ça renifle bien.
Oui, tout à fait. Mais par contre, pour être plus tranquille et surtout, ça reste le sujet principal, c'est ne pas déranger l'environnement. Vaut mieux être caché et rester vraiment très discret. Alors, dans l'affût, on ne fume pas, on éteint les portables.
C'est incroyable. On peut pas téléphoner à l'outre non plus.
Non, elle ne téléphone pas non plus. Ah, ouais. Non, mais le moindre bruit, elle se redresse, elle tourne la tête et elle s'en va. Alors le but de cet affût est d'être très grand.
Faut pas être très grand là déjà pour entrer.
Il faut que
bien,
ça soit confiné.
Donc si on l'a pas en bleu, c'est une maison de Schtroumpf quoi.
Votre truc. Voilà.
Oui, c'est ça. Oui. Allez, on rentre. Hop là. Et puis alors c'est vite fait pour la visite. Des petites ouvertures.
Alors voilà, j'ai mis en place des trappes. Et puis ici, vous avez des petits carreaux de vision.
Ouais.
Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une zone que j'éclaire avec des projecteurs, mais sur lesquels
histoire de pas trop déranger l'environnement, j'ai fixé ce qu'on appelle des gélatines, hein, qui ne laissent pas trop passer les infrarouges et tout ça. Donc ça fait une lueur bleutée qui permet de voir arriver la loutre. La loutre, ça ne la dérange absolument pas. Puis après, il suffit de la suivre avec les appareils photo, de faire les photos, ou tout simplement d'observer parce que c'est un vrai régal.
Il est quand même assez tard là maintenant. Hein.
Là il est 1h du matin on devrait pas tarder à voir arriver la femelle et l'outron. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'ici on est pile poil à l'intersection de deux territoires de chasse. Et en amont là, de l'affût nous avons un gros mâle et en aval on a une femelle qui en ce moment a un loutron. Alors ce loutron ressemble plus trop à un loutron parce qu'il est presque émancipé, c'est-à-dire qu'il va bientôt quitter sa mère. Oui. Il est quasiment aussi gros qu'elle là d'ailleurs.
Et ça vit ensemble, c'est une famille qui est unie ou bien une fois qu'il y a eu le rut, le mec s'est mis à copuler puis après c'est fini
Alors c'est même pire que ça parce que... alors d'abord ce sont des animaux qui ne sont pas communautaires du tout, donc ils ne vivent pas en groupe. Donc ce qui se passe c'est que vous avez, tant que la femelle est disponible, qu'elle n'a pas de jeune, vous pouvez avoir sa couple, le mâle peut rester avec cette femelle. Par contre dès que les jeunes vont naître, la femelle vire le mâle.
Bon alors on attend toujours...
Voilà, attention, on va pas faire trop de bruit. Là, Denis, vous allez pouvoir la voir passer devant le gros bloc, là. Ouais, c'est la femelle. Vous allez pouvoir la passer sur la gauche.
Quelle merveille.
Elle arrive, elle risque de monter, là, c'est son habitude. Elle farfouille, là, sur les galets, là-bas, la petite plage. Voilà.
Et alors, c'est quand même un corps, bon, qui, on le sait, qui est complètement adapté donc à la vie aquatique. Elle est totalement fuselée. C'est extrêmement étendu, quoi. Ça fait combien ça? À plus d'un mètre ça?
Ouais, là, elles sont, les loutres là, qui passent là, en ce moment, elles sont entre 10 et 12 kilos là, pour 1 mètre 20. Là.
Ah oui, d'accord.
Elles sont assez massives. Hein. On voit que c'est des animaux là, qui trouvent suffisamment à manger. Et tout. Hop, elle redescend par la droite. Son habitude, c'est de revenir. Ah ben voilà le jeune.
Ah
voilà,
oui.
Il est quasiment aussi gros. Hein.
Tout petit peu plus petit, mais enfin, il se nourrit comment quoi.
On voit à sa tête qu'il est encore une jeune loutre. Quoi, mais...
Non, mais c'est quoi, c'est un mammifère? Il va téter
plus maintenant, non, là, il chasse. Il suit la mer sur son territoire, mais là, il chasse complètement. Ces sifflements sont les cris, en fait, de ces deux loutres, là, la mère et le petit, qui restent en communication permanente. C'est-à-dire que même si elles sont à un intervalle à peu près régulier, d'écartement, et elles restent en communication sonore. Voilà, alors là, vous voyez, elles ont fait quand même un passage relativement furtif. Mais si elles le décident, elles vont trouver un poisson ou autre chose, une proie, qu'elles vont se ramener sur cette petite grève là de sable et de galets.
Bon, ce que je vous propose, on va se retrouver demain matin, hein, parce qu'on va peut-être dormir un petit peu.
Voilà, là. Il commence à être tard. Oui.
Il commence à être un peu tard. Bon, allez, on y va.
Bon, alors Stéphane, là, sur le même lieu qu'hier soir, mais là évidemment il y a le soleil du matin, donc c'est donc là que jouent nos loutres. Alors effectivement, ils sont peut-être...
Malgré le fait que vous ayez des petits yeux quand même.
Des petits yeux. Ça va être un peu difficile d'en partir à vélo, mais enfin tant pis. Ces bêtes-là, maintenant, à l'heure qu'il est, sont rentrées dans ce qu'on appelle les catiches.
Les catiches sont normalement les lieux de mise bas. Bon, là, en ce moment, la femelle, on ne peut pas dire qu'elle occupe une catiche, mais plutôt des gîtes. Voilà, elles peuvent être n'importe où. Elles font la sieste maintenant. Et puis, elles ressortiront de nouveau ce soir au crépuscule. Et voilà.
Et puis, si on ne les voit pas, il y a leurs crottes, qu'on appelle des épreintes.
Voilà, les épreintes, donc qui sont très faciles à identifier.
Bah oui,
puisque, voilà, donc,
il y a ce qu'il faut. Hein. Il y en a 3 ou 4, là.
Ça, c'est une fraîche de cette nuit. Bah oui. Vous voyez, on voit bien ce vert un peu gluant avec les restes d'écailles, d'arêtes, des choses comme ça. Et par contre, celle que vous voyez là sur le dessus du rocher là-bas, qui est plus grissante, donc ça c'est une épreinte de quelques jours qui a séché au soleil et ça se transforme en gris clair quoi, par rapport à cet aspect goudronneux de cette fraîche-là.
Stéphane, je vais m'en retourner avec des images plein la tête. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Oh ben moi, mon plus grand plaisir actuellement, c'est de pouvoir observer ces animaux fantastiques et puis j'espère encore les observer longtemps.
Voilà donc l'histoire de ce bel indicateur de la qualité de l'eau qui est la loutre. Un ouvrage photographié et écrit par Stéphane Raymond à l'affût des loutres aux éditions Mine de Rien. Vous avez tous les éléments sur le site de CO2 Mon Amour avec une préface de René Roseau. Je le cite parce que cet homme-là fait beaucoup pour les loutres aussi, qui est le directeur scientifique du Muséum d'Orléans. Et puis aussi, je remercie à Jean-Michel Tellière du Centre de la Loutre qui m'a aussi accompagné dans cette aventure.
J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Je viens la chercher, elle m'a dit sois là à 10h. Je n'ai plus une seconde à moi, puisque je lui ai tout donné, tout donné. Qu'est-ce que j'ai fait encore de mon ticket de parking? J'ai dû le perdre tout à l'heure au lavatory. Si elle croit que je vais lui donner 10 centimes pour aller pisser, c'est râpé. On annonce que l'avion de Buenos Aires est arrivé. Je remonte en courant l'escalier. Je bouscule des filets, des hommes maquillés. Et je cours jusqu'à la porte de G. Qui sortent sont tous plus ou moins pressés. Dis-moi Carolina, pourquoi tu n'es jamais pressée? Déjà la semaine dernière, tu as dû sortir la dernière de l'avion. Je ne veux plus attendre encore, mes fleurs sont fanées. La Renault rouge qui est dans le hall commence à tourner. Elle rougit les vitres fumées et je vois le Boeing entrer dans l'entrée. Je m'installe, le commandant me dit bonjour, comment ça va? Alors vous êtes enfin de retour. Plan de vol, regardez encore une fois comme le ciel est grand, car nous allons revenir dedans,
Pierre Vassiliou dans le hall de l'aéroport avec ou sans cendres de volcan donc à cette époque-là. Et on va s'intéresser maintenant donc au troisième sujet de CO2 Mon Amour, au biomimétisme. La nature, l'intelligence de la nature, c'est fabriquer du verre, de la colle, du béton, mais oui, et les ingénieurs s'y intéressent enfin. C'est le dossier de Science et Vie du mois de mai et pour bien le comprendre, Yves Fiamma est journaliste à Science et Vie. Alors s'il vous plaît Yves Fiamma, définition peut-être d'abord du biomimétisme.
Alors le biomimétisme, c'est l'idée de s'inspirer pour les œuvres humaines du sens de l'innovation et de l'intelligence de la nature.
Alors on s'inspire des propriétés de quoi? Des organismes naturels et après on cherche à les reproduire?
Voilà, alors en fait la nature sait faire tout un tas de choses absolument extraordinaires dans des domaines où dont on a besoin constamment, c'est-à-dire qu'elle sait faire des isolants, elle sait faire des bétons, et de s'inspirer de ces techniques qui sont extrêmement propres et durables. Eh bien, c'est une piste pour l'industrie qui pourrait être très positive.
C'est-à-dire que nous, on l'a fait, mais on l'a fait principalement grâce à la chimie, avec des éléments que l'on a créés et synthétiques, quoi.
Il y a la chimie qui commence à s'inspirer des réactions chimiques de la nature. Et ça, c'est très positif parce que pour l'instant, la chimie, ce qu'elle fait souvent, c'est de chauffer beaucoup, de mettre des molécules très agressives, de mettre des solvants très intenses pour fabriquer les produits dont on a besoin. Et la nature, elle ne fait rien de tout ça. Elle fait tout à température ambiante et elle fait tout sans déchets toxiques. Donc, c'est un modèle exceptionnel.
Il y a un exemple que vous donnez, c'est celui des diatomées, c'est-à-dire des algues unicellulaires. Racontez-nous.
Les diatomées sont des algues unicellulaires qui construisent de ravissantes coquilles en verre transparent, d'une perfection et d'une esthétique remarquable. Et elles les construisent à température ambiante et en prenant uniquement des matériaux qui sont dissous dans l'eau de mer. Et donc ça tranche singulièrement avec la façon dont nous faisons le verre, qui consiste à chauffer de la silice à 1400 degrés pendant 48 heures, donc dans une énorme débauche d'énergie, et ensuite à le nettoyer avec toutes sortes de produits toxiques, Voilà, donc nous, face à ce que la nature fait de façon douce, mmh. on a recours à des procédés extrêmement violents et le biomimétisme serait une piste pour sortir de là.
Et donc vous avez interviewé aussi une écologiste américaine qui travaille avec le monde de l'entreprise et qui explique en fait que l'avenir de l'industrie est par là, parce que de toute façon on va passer par des pics que nous connaissons, divers et variés, du pétrole, de l'eau, problèmes de sol, de nombreux métaux aussi viendront à manquer. On va s'inspirer davantage, de plus en plus, de ces méthodes.
Voilà, ce que dit cette écologiste américaine qui s'appelle Janine Benyus, c'est que l'industrie maintenant, avec le pic pétrolier et le pic des matières premières, va commencer à avoir les mêmes contraintes que les organismes naturels. C'est-à-dire peu d'énergie à sa disposition, la nécessité de tout rentabiliser au maximum, de faire le moins de déchets possible, d'optimiser de toutes les façons. Et donc ça va être un changement radical par rapport à la situation actuelle où l'industrie dispose d'énormément d'énergie bon marché. Et donc l'industrie a maintenant intérêt à commencer à imiter ces processus dont, pour l'instant, qu'elle pouvait très bien ignorer tranquillement.
En fait, on va dire que l'homme a toujours été copieur, imitateur. Bon, évidemment, on a les exemples classiques de Léonard de Vinci, de Clément Ader qui ont voulu donc reproduire le vol des oiseaux. Bon, faut d'ailleurs dire que ça n'a pas du tout marché, il y a eu beaucoup d'échecs. Mais c'est quoi la différence que l'on comprenne bien aujourd'hui ?
Tout à fait, l'homme a toujours cherché à imiter la nature et il faut bien dire que jusqu'à il y a très peu de temps, il a eu beaucoup de mal à y arriver. Parce que le vivant, c'est quelque chose de trop compliqué, c'est des mécanismes très très subtils, c'est des nanostructures invisibles à l'œil nu qui expliquent l'efficacité des produits. Et donc finalement, on avait quelque part renoncé et on s'était mis à mépriser la nature en disant que l'homme pouvait faire largement mieux que ce que faisait la nature. Mais maintenant, en fait, grâce à beaucoup de progrès technologiques dans différents domaines, on commence à comprendre comment la nature fait. C'est-à-dire qu'on a des microscopes suffisamment puissants pour voir les nano-aspérités qui permettent les différentes propriétés des organismes naturels. On comprend aussi mieux leur chimie. On est capable d'analyser les enzymes successives qui entrent en jeu dans un certain nombre de réactions. Et donc maintenant, on commence à avoir les capacités d'aller vers cette imitation de la nature. Pas seulement l'imitation de forme générale, mais vraiment l'imitation des processus naturels. Ça, c'est une aventure très intéressante.
Alors, le microscope, évidemment, qui s'est beaucoup amélioré. Et puis aussi l'aspiration à ce qu'on appelle la durabilité aujourd'hui. Donc ça, c'est une tendance qui est plus que lourde.
Absolument, parce que maintenant, la législation fait que pour un industriel, de rejeter beaucoup de polluants, de dépenser beaucoup d'énergie, de laisser des gros déchets, eh bien, ça va lui coûter de plus en plus cher et ce sera d'ailleurs, par ailleurs, de plus en plus mal vu par le consommateur. Et donc ça, c'est une raison supplémentaire pour l'industriel de regarder les façons de procéder de la nature. Parce que la nature fait très peu de toxiques et elle travaille dans des conditions douces dont l'industriel peut se prévaloir, même si c'est un peu de façade. Eh bien, c'est toujours positif dans l'ère du temps actuel.
L'exemple type, c'est une forêt qui se nourrit de ce qu'elle a. Elle n'a pas de déchets. Il y a très peu d'apports qui viennent de l'extérieur et ça fonctionne.
Alors ça, c'est un exemple très intéressant parce qu'en fait, le biomimétisme a plusieurs niveaux d'application. On peut faire des matériaux qui imitent la forme de la nature.
Alors, juste pour la forme de la nature, on va juste donner l'exemple de ce train donc japonais, où là c'était donc des designers qui se sont inspirés du bec du Martin Pêcheur avec son aérodynamisme pour l'avant d'un train à grande vitesse.
Voilà, alors les formes de la nature, en particulier dans les questions d'hydrodynamisme et d'aérodynamisme, ont été déjà beaucoup copiées. Il y a aussi il y a ce train à grande vitesse qui imite le bec du Martin Pêcheur et qui comme ça a réduit considérablement sa consommation d'énergie et ses frottements. Il y a aussi des véhicules qui commencent à être profilés en ressemblant à certaines silhouettes d'animaux naturels comme le poisson coffre. Donc ça, ce sont les formes. Et ensuite, il y a les synthèses, comme celle du verre ou du béton, par exemple. Quand on fait du béton, nous, on chauffe du calcaire à plus de 1000 degrés, alors que la nature, par exemple, un organisme comme le corail, il fait quelque chose qui est du béton et il le fait en stockant du CO2 et à température ambiante. Et puis, il y a un troisième niveau. Et ce troisième niveau, c'est celui de l'écosystème qui, pour nous, serait l'ensemble de l'industrie. L'écosystème naturel recycle tout. Le moindre organisme qui tombe par terre, il est immédiatement consommé, recyclé. Tout est utilisé et tout fonctionne à l'énergie solaire. Dans une forêt, il n'y a pas de chômeur. Et nous, notre industrie, elle devrait fonctionner comme ça aussi. C'est-à-dire que les déchets des uns devraient être les matières premières des autres. Les fuites d'énergie des uns devraient être les sources d'énergie des autres.
Ça veut dire, Yves Siamak, que maintenant, c'est la rencontre obligatoire entre des mondes qui s'ignoraient, à savoir les biologistes qui connaissent les organismes, et puis on va dire tout le monde des ingénieurs au sens large.
Alors c'est ce que essaye d'organiser Janine Benyous, qui a en fait un cabinet de consultants qu'elle appelle un biologiste à votre table à dessin. Et donc quand un industriel a besoin d'une nouvelle fonction, je ne sais pas, un lubrifiant, un isolant, un desséchant, eh bien il peut s'adresser à ces biologistes et leur demander dans la nature quel organisme fait ça et qu'est-ce qui a été publié sur le sujet.
Alors Yves Siama, quels sont les domaines d'application et qu'est-ce que l'on voit foisonner? Racontez-nous, parce que là on ne se rend pas forcément bien compte en France, même si on s'est emparé du sujet, mais où ça se passe et dans quel domaine?
Ça se passe dans un très grand nombre de domaines, mais par exemple, on peut faire des bétons biologiques qui stockent le dioxyde de carbone au lieu d'en consommer. On peut faire des verres, des briques, des textiles, des câbles, des fibres. Il y a une infinité d'organismes, de l'araignée jusqu'au caméléon, qui peuvent nous inspirer pour faire des produits industriels à la fois utiles et propres.
Alors en vous écoutant Yves Siama et puis en regardant donc cet article de Science et Vie, ça nous rappelle que la nature, depuis à peu près 3 milliards et demi d'années, hein, que la vie foisonne, bah elle fait de la R&D, hein, si on doit employer un langage d'aujourd'hui, c'est de la recherche et développement en permanence.
Oui, c'est l'aspect vraiment intéressant du vivant, c'est que le vivant optimise. Le vivant optimise sans cesse parce que chaque organisme est constamment en concurrence avec les autres. Et dans cette concurrence, il essaye constamment, inconsciemment bien sûr, mais des nouvelles enzymes, des nouveaux venins, des nouvelles formes, des nouvelles fonctions. Et dès qu'une de ces formes est un peu meilleure que la précédente, eh bien, la sélection naturelle la prend, la favorise, la sélectionne et la généralise. Ce qui fait que les organismes qui sont là aujourd'hui, ils sont le produit quelque part de 3 milliards et demi d'années de R&D. C'est seulement les meilleurs qui ont survécu, les plus adaptés, ceux qui avaient les fonctionnements les plus subtils. Et donc d'utiliser ces organismes, c'est une sorte de transfert de technologie du vivant vers nous-mêmes.
Alors je le disais, donc le mariage des biologistes, et Dieu sait si on manque de gens qui sont systématiciens, comme on dit, parce que ce sont eux vraiment qui connaissent le fonctionnement de la nature et des différents organismes, et puis on va dire des gens de l'industrie et du monde des ingénieurs, qui s'occupent de ça? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de start-up qui fleurissent, je ne sais pas, aux États-Unis, au Japon, ailleurs, en France?
Le mouvement est vraiment lancé depuis une dizaine d'années à peine. Et on voit les industriels que j'ai rencontrés, qui sont des industriels importants. Par exemple, j'ai parlé au directeur scientifique de Lafarge, qui est le premier cimentier mondial. Et ils me disent maintenant, quand on a besoin d'une nouvelle fonction, d'un nouveau produit, on commence par regarder ce que fait la nature. Et ensuite, éventuellement, on adapte, on s'inspire ou on fait autrement. Mais c'est le premier réflexe. Et pour arriver à cela, les industriels, pour l'instant, commencent à chercher des biologistes, à chercher des connaisseurs de la nature, à financer des thèses, et il y a même des formations en biomimétisme qui sont en train de se mettre sur pied outre-Atlantique, y compris dans les universités les plus prestigieuses comme Harvard ou Berkeley, où maintenant il y a des chaires de biomimétisme qui sont financées et une recherche extrêmement active.
Vous avez des gens comme Saint-Gobain qui sont très intéressés par cela. On a évoqué donc le verre avec beaucoup de consommation à la fois de matériaux et aussi d'énergie. Eux, ça les intéresse en premier lieu.
Absolument. Et en plus, Saint-Gobain ont besoin souvent de verres particuliers. Alors par exemple, il y a un sujet d'étude qui intéresse beaucoup les verriers, c'est le verre non mouillant. C'est-à-dire qu'ils cherchent à concevoir un verre dont l'eau glisserait, où elle n'adhérerait pas du tout. Et pour cela, certains d'entre eux s'inspirent de la feuille de lotus ou de certaines feuilles de nénuphar, où dès qu'on dépose une goutte, peut-être que vous avez vu ça, cette goutte roule et tombe de la feuille. On dirait qu'elle est suspendue sur la feuille, pratiquement. Ouais. Et ça s'explique, et on le sait depuis relativement peu de temps, par une nanostructure qui est faite de petits picots que la nature a disposés à la surface de cette feuille. Et ces petits picots font que la goutte d'eau est en quelque sorte suspendue sur les pointes. Elle n'arrive pas à adhérer à la feuille elle-même. Et donc Saint-Gobain a mis au point un prototype de verre de ce type, donc de verre non mouillant. Et ça veut dire que la saleté, en fait, ne peut pas adhérer sur un verre comme ça. C'est quelque chose qui va rester plus ou moins éternellement propre et qui, par ailleurs, supprime le besoin d'un essuie-glace, puisque l'eau n'adhère pas dessus. Mais les gens de Saint-Gobain me disent la vraie difficulté, c'est de tenir le concept. Après, réaliser l'industrialisation, c'est une question de temps, mais c'est quelque chose dont on a l'habitude.
Merci Yves Siamat de nous avoir éclairé donc sur ce biomimétisme. Et dans quelques instants, on va aller dans le département de l'Isère avec une initiative très intéressante concernant les collèges. Eh bien, c'était Stand Up, interprété par Indy Zara sur France Inter et toujours en direct. Nous allons faire un petit tour du côté du département de l'Isère pour rejoindre Jean-François Noblet, qui est conseiller technique environnement au Conseil Général de l'Isère. Jean-François Noblet, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
On va parler d'une première française, ça va nous faire un petit peu de bien parce que la biodiversité est un peu malmenée.
Eh oui.
Mais vous y faites attention quand même chez vous, dans ce département numéro 38 si je ne me trompe pas. Alors, en fait, vous avez inauguré, alors je ne vais pas dire un collège, mais vous allez nous parler du collège qui s'appelle le collège du Pré-Béni, qui se trouve à Bourgoin-Jailleux. Une petite pensée pour Frédéric Dard d'ailleurs en passant. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce collège? Pourquoi est-ce que c'est une nouveauté?
Alors, pour la première fois, on a imaginé un cahier des charges pour les lots espaces verts des collèges. Autrefois, on pensait beaucoup à l'isolation, aux économies d'énergie, à la gestion des bâtiments. Eh bien maintenant, le Conseil général, dans le cadre de son agenda 21 des collèges, a décidé de s'occuper du cahier des charges des espaces verts.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va trouver?
Ça veut dire que concrètement, au lieu de laisser faire les paysagistes pour nous faire des espaces verts tout à fait banaux qu'on retrouve dans tous les collèges de France, c'est-à-dire un gazon bien tendu et une haie de thuya sur les clôtures, eh bien nous, on a décidé de remplacer tout ça pour en faire non seulement un lieu hautement riche en biodiversité, c'est-à-dire par exemple les gazons tendus, on les remplace par des prairies fleuries, et aujourd'hui c'est absolument magnifique. Les arbres d'ornement, on les remplace par des arbres fruitiers d'essence locale. Les haies de thuya, on les remplace par des haies champêtres très diversifiées. On met des nichoirs, on met des mangeoires, on végétalise les façades, et puis on construit une mare pédagogique, un tas de compost, enfin toute une série d'aménagements qui permettent aux enseignants et aux élèves non seulement de profiter d'un environnement extrêmement chaleureux et intéressant, bienfaisant pour la santé, mais également de pouvoir éviter les sorties scolaires en car pour aller observer la mare. Et ben, il suffit de le faire dans la cour du collège. Ça économise l'énergie. C'est très très bon pour la gestion des espaces verts, c'est-à-dire ça coûte beaucoup moins cher que les espaces verts traditionnelle.
Oui, parce que en fait, il y a moins de macadam, moins donc d'imperméabilisation aussi des cours. Enfin.
Eh ben, par exemple, oui, au lieu de mettre des goudrons, etc. Eh bien, on va mettre des paillages, on va faire en sorte que les espaces soient moins imperméabilisés. Et tout ça, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher dans la réalisation des cahiers des charges des collèges.
Mais ça, c'est intéressant, parce que je veux dire que très souvent, on oppose écologie, économie. Bon, là, actuellement, il y a une nouvelle vague économique. On va voir ce que va donner le Grenelle de l'environnement cette semaine. Ça va être... Bon, enfin, on va voir. On va leur laisser une chance quand même. Mais on en parlera avec Nathalie Fontrelle. D'ailleurs, je tiens à le dire, la semaine prochaine, dans l'actualité de l'environnement. Bon, on décryptera un petit peu tout ça. Mais ça veut dire qu'il y a moins d'argent dépensé, en fait, pour ces espaces verts.
C'est ça qui est génial. C'est que, une fois de plus, on démontre que la bonne économie, elle est écologique. Et si on évite de faire des espaces verts traditionnels et si on tient compte de ces nouveaux cahiers des charges, comme le Conseil général vient de le mettre en place et a adopté ce principe pour l'ensemble des collèges de l'Isère. Et hier, il y avait plus de 20 collèges qui sont venus voir.
Vous avez une centaine de collèges dans l'Isère. Donc là, celui-là a été expérimenté. Et donc, une vingtaine de collèges, donc 20% des collèges sont venus, quoi, pour voir.
Voilà, pour voir. Et puis bon, beaucoup étaient excusés, mais tout le monde est très intéressé par cette idée nouvelle. Et je pense qu'une fois de plus, le Conseil général va démontrer qu'on peut faire des choses passionnantes en matière d'éducation. Et d'environnement.
Et donc voilà, c'est vraiment de la véritable éducation à l'environnement sur les lieux de travail, en fait, c'est ça?
Oui, bien sûr. Et ce projet est labellisé année de la biodiversité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, bah, c'est extraordinaire de voir les nichoirs qui sont occupés, les martinets qui tournent au-dessus. Il y a quasiment 12 espèces d'oiseaux qui fréquentent la cour du collège. Et évidemment, les élèves sont ravis. Ils participent avec leurs professeurs de sciences naturelles, avec leurs professeurs d'histoire géo, etc.
Eh bien, ça fera des petits collégiens. Voilà, ça fera des petits collégiens, donc éduquer à l'environnement, ce que l'on souhaite. Merci beaucoup, Jean-François Noblet. Merci à vous.
Voilà, merci.